8h19 à Paris, notre invité, nous recevons ce matin Sophie Zoppa. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes chercheuse en chimie atmosphérique au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'université Paris-Saclay et experte auprès du GIEC. Vous êtes donc l'une des expertes à qui l'on doit le rapport sur le climat qui a été rendu public hier. Tout le monde s'accorde à dire que ce rapport fait peur. Il annonce un réchauffement de la planète d'1,5 degré plus tôt que prévu et de nouvelles catastrophes. Sophie Zoppa, est-ce qu'il est trop tard pour agir ?
Alors, il n'est bien sûr pas trop tard. Effectivement, ce que dit ce rapport, c'est qu'on vit aujourd'hui et de manière intense les effets de ce changement climatique qui est lié intégralement aux activités humaines. On le voit au travers de la fonte des glaces, du réchauffement bien sûr, mais aussi de l'intensification des extrêmes climatiques avec dans toutes les régions du monde des extrêmes, comme on a pu le voir récemment dans l'actualité.
Oui, cette grande canicule au Canada. Enfin, des phénomènes climatiques qui arrivaient, mais qui arrivent de plus en plus souvent désormais.
Hein. Exactement, ils arrivent de plus en plus souvent et de manière de plus en plus intense. Donc les inondations liées à des pluies intenses, les sécheresses, les vagues de chaleur. Mais ce que l'on dit aussi dans ce rapport, c'est que le futur, le réchauffement additionnel, en plus de ces 1,1 degrés que l'on expérimente déjà, ce niveau de réchauffement, il peut être de quelques dixièmes de degrés ou de plusieurs degrés, et cela dépend uniquement des trajectoires d'émissions futures que l'on va prendre et des choix que l'on va faire collectivement, avec soit des baisses fortes, soit on continue comme d'habitude, voire on augmente les émissions.
Donc, il n'y a pas de doute sur la gravité du constat. Tout ça est extrêmement alarmant, Sophie Zoppa.
Alors, tout cela, effectivement, est extrêmement alarmant et je pense qu'aujourd'hui, c'est concret pour les gens et les gens comprennent et ressentent ce que cela signifie. Donc, il est urgent de s'adapter à ces changements qui sont en cours et qui vont continuer de s'intensifier. Maintenant, il est aussi très urgent de mettre en place des moyens de réduire ces émissions pour s'inscrire sur une trajectoire qui ne dépasse pas trop 1,5 degré.
Ça veut dire tout de même si tout ça est alarmant, que nous ne sommes pas encore à un point de basculement. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard, c'est ce que vous nous disiez en commençant cet entretien.
Non, il n'est effectivement pas trop tard. On sait que physiquement, si l'on arrêtait aujourd'hui totalement d'émettre du CO2 et qu'on réduise fortement les gaz à effet de serre, la température se stabiliserait au niveau de réchauffement qu'elle a atteint. Ça, c'est ce que nous dit la physique. Aujourd'hui, du point de vue sociétal, on sait qu'on ne peut pas tout de suite arrêter les émissions.
On ne peut pas tout stopper, oui.
Voilà, mais qu'on peut néanmoins s'inscrire dans une démarche de réduction forte dans la décennie qui vient et du coup rester sur une trajectoire de 1,5 degré voire 2 degrés, mais en tout cas pas aller au-delà de 2 degrés.
Sophie Zoppa, votre domaine d'expertise particulier, c'est pour ça que vous étiez au sein de cette commission d'experts assez large, plus de 230 au total, hein, c'est ça. Votre domaine, c'est la pollution. Comment peut-on dire aujourd'hui de façon certaine et évidente pour vous que la pollution agit sur le climat ?
Alors, il y a deux liens entre la pollution et le climat. Le premier lien, c'est que ce sont les mêmes sources d'émissions. Donc, pour le CO2, la source principale, ça va être l'extraction, la distribution, la combustion des combustibles fossiles, donc le charbon, le gaz, le pétrole. C'est également une source importante de polluants. Et l'agriculture est également une source et de gaz à effet de serre et de polluants. Donc, ça, c'est le premier lien. Et le second lien, c'est effectivement, et on le sait depuis longtemps, que les petites particules de pollution qui sont émises agissent sur le climat. Soit, pour certaines, elles réchauffent le climat, pour d'autres, elles refroidissent le climat. L'effet majoritaire est un refroidissement du climat par ces particules. Et puis, on a des gaz qui vont contribuer à une pollution telle que la pollution à l'ozone, qui est également un gaz à effet de serre.
Donc ça, ce sont les liens évidents. L'une des nouveautés, en tout cas pour moi qui ne suis pas spécialiste du rapport, concerne ce qu'on appelle les gaz à courte durée de vie. Par exemple, le méthane. Alors j'apprends que c'est le deuxième gaz à effet de serre en quantité et qu'il faudrait des restrictions strictes sur le méthane, sur les émissions de méthane. D'abord, qu'est-ce qui émet du méthane aujourd'hui dans nos activités ou dans la vie sur la planète telle qu'elle est aujourd'hui ?
Alors la principale source de méthane va être liée à l'extraction et la distribution des combustibles fossiles.
Donc quand on extrait du pétrole, quand on extrait du gaz, cette activité-là émet du méthane.
Voilà, exactement, les torchères, les fuites de méthane le long des pipelines. Donc ça c'est une source importante. Et puis il y a également deux autres sources. La première c'est l'agriculture avec les ruminants qui émettent du méthane. Et la troisième c'est le traitement des déchets qui, là aussi, suivant la manière dont il est fait, émet plus ou moins de méthane.
Ce sont les sources principales d'émissions de méthane. Et il nous est dit dans ce rapport qu'il faut réduire ces émissions. Comment peut-on réduire les émissions de méthane? C'est un levier qui peut paraître nouveau à quelqu'un qui n'est pas expert comme je le suis.
Alors, ça n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ces composés autres que le CO2 font partie du panier des composés à réduire depuis le protocole de Kyoto dans les années 90. Donc ça n'a rien de nouveau. C'est simplement là, on met un petit peu plus l'accent sur ces composés. Il est important de rappeler que le seul moyen de réduire à long terme le changement climatique et de le stabiliser, c'est vraiment de s'attaquer au CO2 qui a un temps de vie très long, mais le méthane qui a un temps de vie court permet d'agir plus rapidement.
C'est un levier malgré tout.
Voilà, ouais. C'est-à-dire que si on arrête de l'émettre, sa concentration va diminuer, ce qui n'est pas le cas du CO2. Donc c'est un levier qui est important, et c'est un levier d'autant plus important que le méthane produit de l'ozone. Et donc si on réduit le méthane, non seulement on a un bénéfice pour le climat, mais également pour la qualité de l'air, puisque l'ozone est un composé qui est problématique pour les voies respiratoires.
Pour la santé publique. Oui.
Exactement, mais aussi pour les écosystèmes, mais aussi pour les rendements de culture. En fait, l'ozone diminue les rendements de culture. Donc c'est vraiment un composé gagnant-gagnant.
Oui, c'est tout un cercle qui, pour le coup, est vicieux et que l'on pourrait rendre vertueux.
Exactement.
Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste, vous êtes experte, vous êtes scientifique, vous n'êtes pas politique, mais est-ce que vous êtes optimiste sur la prise de conscience qui pourrait enfin apparaître à l'issue de la publication de ce rapport? Vous me disiez, pour tout dire, avant d'entrer dans ce studio, que vous étiez assez surprise par le ton catastrophiste employé par l'ensemble de la presse pour rendre compte de vos travaux.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en plein dans le changement climatique, on en voit les effets, c'est dramatique, il faut pas se voiler la face. Effectivement, ça peut empirer dans des proportions qui sont extrêmement inquiétantes, mais on a aussi les moyens de s'inscrire dans un futur plus vertueux, puisque on sait quelles sont les sources, quelles sont nos activités qui émettent du CO2. Donc bien sûr, ça n'est pas simple d'avoir ces changements sociétaux, mais il y a aujourd'hui, on le sait, une jeunesse qui s'est emparée de ces questions, qui sait que c'est déterminant pour elle, et donc il est important aujourd'hui de s'inscrire dans ces trajectoires. Donc notre rapport rappelle qu'il y a différents choix possibles, et bien sûr ces choix seront plus explorés par un autre rapport à venir au mois de mars sur le coût, la faisabilité, les bénéfices de ces réductions. Mais aujourd'hui, on connaît les sources de gaz à effet de serre et on sait qu'il faut agir dessus sans attendre. Donc ça, on espère que la COP26 amènera des
choses concrètes. Oui, la COP26 qui arrive, c'est au mois de novembre. Vous en attendez, vous en espérez des résultats. Donc forcément, en tant que scientifique ayant travaillé depuis 3 ans sur ce rapport.
C'est ça, donc ce rapport, c'est 3 ans, des milliers de publications qui sont analysées pour aboutir à ce travail, et il sert normalement vraiment à informer les décideurs pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Donc c'est vraiment notre travail, nous ne décidons pas, nous apportons une information, et le résumé pour décideurs, il est co-approuvé par nous et par les représentants, par nous scientifiques et par les représentants de 195 États membres du GIEC. Donc ce qui est dit dedans est approuvé par ces États, et à charge pour eux aujourd'hui de faire le nécessaire pour s'inscrire dans une trajectoire qui fasse baisser les émissions de gaz à effet de serre.
Oui, sans tomber dans les questions trop personnelles, en un mot, quand on sort de 3 ans d'activité comme ça, quel est votre état d'esprit une fois que le rapport est public, il est sur la place publique et on en parle aujourd'hui?
Alors c'est d'une part un soulagement parce que c'est une quantité de travail énorme, une certaine fierté d'avoir fait aboutir ce travail qui nous fait peut-être des fois un petit peu oublier pendant un temps la gravité de ce qui est dit dedans, mais pour nous c'est vraiment un travail qui arrive à son terme et dont on a envie que la population le comprenne et se l'approprie.
Et c'est pour ça que vous étiez avec nous ce matin. Merci Sophie Zoppa.